Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le ciel, quand on lit l'Apocalypse, il y a une chaîne de gouvernement. Il y a un trône, il y a des séraphins, il y a des archanges, il y a les anciens. Et tout ceci, c'est un ordre de gouvernement, d'autorité. Et la Bible nous présente que dans le monde des ténèbres, il y a une chaîne de commandement. Les dominations, les autorités, les esprits méchants, les démons, des petits soldats. Je dis petits soldats, c'est des rangs. La Bible nous parle que nous devons avoir conscience du rang que nous avons dans une armée, dans un corps. La notion de gouvernement et d'autorité spirituelle est attachée directement à une église. Il n'y a pas d'église sans gouvernement. On va le voir tout à l'heure. Et la notion de gouvernement et d'autorité spirituelle, on ne se proclame pas gouverneur. On le reçoit d'en haut. Il y a un général dans le ciel qui s'appelle Jésus. Enfin, un général, c'est le chef de l'armée. Pour nous, ici en France, ce serait le président de la République. Hein. Il est le chef des armées. Puis après, il y a des généraux, des colonels, toute une organisation. Et il se trouve que dans l'organisation même de l'armée française, il y a des principes qui nous servent pour comprendre le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a été étonné à admirer la foi du centenier. Pourquoi? Parce qu'il avait capté des principes dans l'armée qui a été un point d'appui pour sa foi. Parce que le royaume de Dieu est un royaume avec un gouvernement et des principes que si nous n'avons pas conscience, on va être en difficulté. Je vais essayer de faire rapidement une chose qui est difficile, mais c'est important. On appelle ça l'ecclésiologie, qui est une doctrine importante parmi la dizaine, douzaine de doctrines fondamentales. Il y a l'ecclésiologie parmi d'autres. Et l'ecclésiologie, c'est quoi? C'est qu'est-ce que l'Église? Ça paraît simple comme ça. Oh, mais l'Église, c'est OK. On pourrait répondre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails ou de vous interroger. Mais je vais vous partager notre conception de l'ecclésiologie. Parce que par église, par famille d'église, c'est différent. Ça conditionne énormément la manière dont nous vivons l'église. L'église est d'abord, il y a cinq images bibliques, elle est une fiancée. On parle de l'épouse de Christ. Les noces de l'agneau auront lieu dans l'Apocalypse, c'est décrit dans l'Apocalypse. Mais en attendant, nous sommes fiancés, une fiancée amoureuse, une fiancée qui aime adorer. Ça rejoint le commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. L'Église doit apprendre à aimer, elle doit être fiancée. Dieu attend à ce que nous soyons, en tant qu'Église, dans une dimension de fiancée, mais qui se donne à lui et qui reste dans l'émerveillement, comme dans un couple, rester amoureux. Ça, c'est une chose. Et ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. L'Église est une famille. Nous sommes la famille de Dieu. C'est décrit clairement dans la parole. Avec une dimension qui obéit à une intention qui dit aimez-vous les uns les autres. Et dans le contexte d'une famille où il y a aussi un ordre. Il y a des pères spirituels, des mères spirituelles, il y a des fils et des filles spirituels, il y a des enfants spirituels, il y a toujours un ordre. Et la Bible nous dit d'obéir aux anciens, les pères et les mères spirituelles d'une église. L'église est aussi une école. Pourquoi? Parce qu'il y a une ordonnance d'en haut de connaître la parole, mais aussi que les anciens enseignent aux autres ce que Jésus a prescrit. Et c'est une école, on doit apprendre. L'amour s'apprend, mais il y a d'autres choses qui s'apprennent. Et si l'église n'est pas une école, nous on a dans notre église choisi de faire une école qui s'appelle École Clé, dont le contenu a pour but de vraiment nous aider à connaître Dieu par sa parole. L'église est aussi une entreprise. Alors ça peut faire un peu comme ça, tiqué, mais c'est la vérité, parce qu'elle a une mission spécifique. Jésus, à 12 ans, dit à ses parents, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et puis Jésus nous donne une mission, hein, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est du travail. Le faire, c'est du travail. Et il faut que l'Église puisse envisager sa mission aussi sérieusement que l'enjeu d'une entreprise, avec autant de rigueur et de sérieux. Et puis l'Église, et c'est mon propos ce matin, est une armée. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi. On prie que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un royaume ici qui doit passer à notre Dieu. Hein, dans l'Apocalypse, il dit les royaumes de ce monde sont passés hein, à ton oint, à Jésus. Mais pour que ça se passe, ça prend une église qui a conscience qu'il y a un combat, qui a conscience qu'il y a une confrontation, qui a conscience que par la prière et bien par d'autres choses, nous sommes dans la logique d'une armée qui va envahir et qui s'attend à ce que le Père envahisse par nos prières en collaboration avec l'Église, et bien concrètement ce qui a été acquis pour nous à la croix. C'est curieux, la Bible présente Dieu, il est Père, etc. Mais il y a un aspect de Dieu que nous connaissons peu. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il se nomme lui-même, il s'est donné à lui-même un nom. Ça veut dire que, vous savez, moi je m'appelle Philippe Antoine Rodrigue. Trois prénoms différents qui pourraient me caractériser. Je pourrais vous raconter l'histoire de chacun de ces prénoms. Mais Dieu a beaucoup de noms. Ce n'est pas infini. Mais s'il choisit de nous dire, dans mon caractère, dans mon identité, je suis l'Éternel des armées, c'est pas poétique simplement. Dans la réalité spirituelle, si nos yeux s'ouvraient, on verrait qu'il y a un combat là, ici. Dans le jeûne de Daniel, à un moment donné, lui, il prie, et puis le Seigneur lui donne la grâce d'avoir les yeux ouverts sur ce qui se passe sur l'invisible. Lui, il est à genoux en prière, en repentance, en confession, etc. Et puis Dieu dit, ok, je vais exaucer ta prière. Et au moment où il exauce sa prière, il y a un ange Gabriel qui part, et il est en combat. Il y a un combat. Et l'Éternel est l'Éternel des armées. Et la Bible nous dit dans le psaume 24, il est puissant dans les combats. Ça veut dire Dieu combat. Je ne sais pas si vous avez cette vision, cette conscience, vous avez communion avec un Dieu qui combat. Et à des moments, tu vois, alors ce n'est pas le combat du genre, je ne sais pas, tu sais, je fais un bras de fer avec le diable, les circonstances. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit qu'il y a une notion guerrière. Et la prière est associée à des notions guerrières. Il y a une scène biblique qui me touche aussi, c'est Josué, à un moment donné. Et ça, c'est vraiment l'Église. Hein. Vous savez que le peuple d'Israël est une préfiguration de l'Église. Et quand ils sortent d'Égypte et puis qu'ils vont pour rentrer effectivement dans leur héritage, il se produit quelque chose de particulier. Une scène pareille, invisible. La réalité des choses invisibles qui apparaissent. Josué, avant d'attaquer Jéricho, hein, tous ceux qui ont une culture biblique, ils connaissent, c'est le premier des combats du peuple d'Israël qui est la symbolique de l'Église. C'est un combat. Et au moment où ils y vont, d'un coup, ils voient quelqu'un avec une épée dégainée qui ressemble forcément à un homme parce qu'il se dit, mais tu es avec nous, tu es contre nous, enfin, il y a tout un débat. Puis il lui dit, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. L'épée dégainée. Et vous savez ce qui se passe à ce moment-là? Il se met à adorer. Visage contre terre. Avant d'aller au combat, l'adoration. Et il reconnaît que celui qui va les conduire à la victoire, il s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel. L'Église est une armée. Pourquoi? Parce qu'elle a un combat à mener. Il y a un ennemi. Il y a un royaume des ténèbres organisé. Et ça prend une Église organisée avec la conscience de son gouvernement, de son rang, de l'accueil de ce gouvernement pour mener correctement la bataille. Les Français ont une tradition gauloise. Vous connaissez Astérix et Obélix ? César, les Romains avaient tout compris. Eux, ils étaient organisés. Ils avaient compris quelque chose de particulier. Quelque chose que je crois qui est inspiré du monde aussi spirituel. L'organisation avec un chef. Et puis le centenier dit, moi je reçois des ordres, je ne calcule pas, j'obéis. Et les gens sont en dessous de moi, je leur donne des ordres, ils ne calculent pas, ils obéissent. Et les Français, dans Astérix et Obélix, c'est... Heureusement qu'ils avaient la potion magique. Sans potion magique, je vais vous dire, en face des Romains, ils se font rétamer. Alors oui, les Français sont contents, ils ont la potion magique, ils mènent le combat, ils arrivent, ouais. Mais c'est qu'à la condition de la potion magique, et vous comprenez bien l'image. Si on veut confronter le monde des ténèbres bien organisé, il faut plus qu'une potion magique. Il faut comprendre les principes spirituels du gouvernement. Jésus a dit, tu sais, il est très peu de fois utilisé la notion d'église dans la Bible. C'est curieux. Hein? On parle d'ecclésiologie, qu'est-ce que l'église? Mais très peu de fois, il est fait mention de l'église. Mais il y a un texte fondamental qui nous différencie d'ailleurs des catholiques, où Jésus cite la notion d'église. Il dit, je bâtirai mon église. Et je vais vous rappeler le contexte dans lequel il le fait. Il dit, demande aux disciples, mais que dit-on de moi, le monde là? Il dit quoi de moi? Qui est-ce que je suis? Les disciples répondent, je vous fais l'histoire courte. Puis à un moment donné, il dit aux disciples, mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Alors c'est Pierre qui se met à dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répond, waouh, tu as eu une révélation là. Parce que tu ne peux pas le savoir par toi-même. Ça prend une révélation. Et il dit une chose, la suite ici, il dit, et moi je te dis, Pierre vient de confesser que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il lui répond, moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il y a ici un piège, parce que tu es Pierre, et sur cette pierre, Pierre c'est son nom, et c'est Pétros, c'est Caillou. Et sur cette pierre, c'est le même mot, sauf que c'est Petra, c'est rocher. Donc nous on lit Pierre, c'est un beau jeu de mots en français, mais en réalité spirituelle, ça nous trompe. Même les Romains, enfin l'église romaine catholique s'est trompée. On crut que c'était sur Pierre en tant que personne que Jésus bâtirait son église. Non, c'est sur Petra, le rocher, qu'il est lui-même. Il est en train de dire, c'est sur la révélation que tu as reçue du Père que je bâtirai mon église. L'église doit être bâtie sur le fait que Jésus est le Christ et il est le Fils du Dieu vivant. L'église doit être vivante et fondée sur la révélation de ce qu'est Christ. Si tu n'as pas la révélation de ce qui est Christ, si l'église n'a pas cette révélation, elle n'est pas l'église. C'est autre chose, mais pas l'église. Ça prend la révélation qu'il est le Christ. Tu dois le voir, tu dois le recevoir. Et les responsables de cette église doivent avoir cette révélation. Une église qui se crée, qui est implantée et qui n'a pas la révélation de Christ, Fils du Dieu vivant, comprenez ce que je suis en train de dire. C'est une annexe d'une autre église. Et la suite, c'est très important. Je te donnerai les clés. La symbolique ici, c'est quoi? C'est l'autorité. Il reçoit la révélation, il est détenteur de cette révélation, et Jésus dit, je te donnerai, il n'est pas encore prêt, c'est au futur. Hein. Il ne dit pas, oh, tu as la révélation, je te donne la clé là. Non, 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 je te donnerai. Il y a un processus qui doit se mettre en route. Mais quoi? Il deviendra quoi? Effectivement, un apôtre, quelqu'un qui est tant qu'il fera partie d'un gouvernement spirituel. Parce que sans gouvernement spirituel, tu ne peux pas mener le combat. Parce que dès que l'église est église, il y a une confrontation spirituelle. Dès que l'église est l'église, il y a un ennemi qui vient et dit « Quoi là? Tu veux prendre quoi? Tu veux gagner? Tu veux prendre ma place? Tu veux prendre les clés? Tu veux que je fasse rémission? Je vais me battre. Je me battrai jusqu'au... » Tu sais, parce que c'est de ça, c'est un enjeu qui est là. Et la mission, le combat, c'est la victoire de Christ par l'église, avec l'église, ou le fait que si nous ne rentrons pas dans notre mission pour livrer ce combat, en conscience qu'il y a un gouvernement, une autorité spirituelle qui est déléguée, qui a les clés réellement, et qui va utiliser les clés, pourquoi? Autoriser, parce que ce que vous lirez, c'est interdire. Ce que vous délirez, c'est ce que vous autoriserez. Dieu dit à Pierre, vous allez devenir l'Église dans le but de ouvrir ou fermer, d'autoriser ou d'interdire. C'est des actes qui ne sont pas juste relationnels ici, là. C'est des actes spirituels qui s'adressent à un ennemi qui est clairement identifié. Où l'Église, étant réellement Église, dans la révélation de qui est Christ, va dire « Diable, démon, principauté, esprit méchant, nous vous interdisons. » Royaume de Dieu, les choses d'en haut, nous vous autorisons. Nous avons une autorité qui doit être exercée. Si l'Église ne rentre pas dans sa vocation d'exercer cette autorité, elle n'est pas véritablement l'Église. Parce qu'il dit, je bâtirai mon Église. Et il s'agit ici d'Ecclésia. Le mot Église, c'est Ecclésia. Ce n'est pas un terme religieux, c'est un terme politique. C'est un terme d'une réalité politique. On est en train de mener un combat. On va gagner ou on ne va pas gagner. On va gagner la ville ou on va perdre la ville. On va gagner la nation, la région ou on va la perdre. Et ça prend un gouvernement, une autorité. Il dit, j'établirai mon gouvernement. C'est ça qu'il est en train de dire. Il ne dit pas une église, un gouvernement. Un gouvernement qui a compris la chaîne de commandement et d'autorité. Est-ce que vous me suivez là? Et du coup, le but d'emblée, il dit, parce que je l'aurai établi, eh bien, et qu'elle vivra dans ma révélation, elle aura la victoire sur le monde des ténèbres. C'est la révélation de Christ, esprit, le Fils du Dieu vivant, pour triompher de la mort. Jésus est revenu vivant d'entre les morts et il nous donne l'autorité de confronter la mort. La porte du la puissance du séjour des morts, la puissance de la mort ne prévaudra pas par contre cette église-là. Pourquoi ? Parce qu'elle sera établie dans l'autorité de Christ. L'église est, est faible, n'a pas l'impact qu'elle devrait avoir parce qu'elle n'a pas conscience de ce pourquoi elle est faite et des chaînes de commandement, des chaînes de gouvernement en elle. Parce que si on, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est bien dommage d'ailleurs parce que je sens mon esprit qui dit yes. Après, nous avons reçu, nous ici à Clé, je voudrais dire que cette église, elle est née par une révélation de Dieu. Il y a des, moi, je veux dire qu'il y a des églises qui naissent sans la révélation de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a donné des promesses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette prédication de Steve, là, en octobre. C'est puissant. Et il est évident qu'au fondement de l'église, au travers du ministère de Philippe Jauré, et puis l'équipe qui travaillait avec lui, Dieu a parlé, Dieu a promis. De la même manière que Pierre a reçu une révélation, d'accord ? Chaque église doit être fondée avec une révélation, avec une parole, une promesse. Quand Dieu se révèle, il dit quelque chose. Et je voudrais en parler très courtement. Nous appelons clés sur la base de ce texte de Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés. C'est-à-dire que dans la mission que Dieu nous a donnée, il y a réellement le fait d'exercer une autorité spirituelle et c'est un mandat d'en haut. Non, la symbolique, s'il te plaît. Rapidement, symbolique, symbole d'autorité. Dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, celui qui avait les clés avait l'autorité. Et c'était une grosse clé. Il se baladait avec une très grosse clé autour de la ceinture ou sur le dos. Et si vous étudiez dans la parole, à un moment donné, je tiens les clés de David, Jésus dit, je tiens les clés de David, etc. Mais ces clés-là étaient portées sur les postes, c'était une grosse clé. Et celui qui l'avait, avait autorité. C'est lui qui dirigeait, qui avait autorité. Comprenez ce que je suis en train de dire. C'est lié à des principes d'autorité. La deuxième chose, c'est un symbole de victoire dans le combat. C'est-à-dire, tu mènes un combat contre une ville, celui qui avait les clés de la ville devait venir, si c'était un roi, il devait venir ramener la clé à celui qui avait triomphé. Parce que celui qui a la clé, c'est celui qui a l'autorité sur la ville. Tu as triomphé. Donc ça veut dire que si tu as la clé, tu peux la lever et lui dire « Alléluia ». Et ce qui se passe dans cette... Il se trouve que Montpellier s'appelle « Montagne fermée au verrou ». C'est-à-dire c'est une ville qui est verrouillée. Et vous savez, Dieu nous établit pour pouvoir exercer l'autorité et dire « Redonne les clés ». Si nous ne voyons pas les choses que dans la dimension humaine, on va voir qu'il y a des principautés qui revendiquent d'avoir les clés de cette ville. Si nous menons le combat, on va interdire et commander, donne-nous les clés. Exercer cette autorité par le jeûne, la prière, la conscience de ce qui se passe. Parler, parce que très souvent, vous savez, l'Église a pour mission de parler. Dieu a établi l'Église pour parler. Elle est le fondement, la colonne de la vérité. Et cette Église doit dire la vérité dans les cieux, elle doit dire la vérité entre nous, elle doit dire la vérité, la bonne nouvelle aux non-croyants, elle doit dire... L'Église a pour mission de proclamer les merveilles de celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Proclamer. Mais du coup, elle a une mission de parler, excusez-moi du peu, aux esprits méchants, aux démons, aux dominations, aux autorités. Il faut que l'Église parle et fasse quoi ? Je t'interdis. Et on n'autorisera pas beaucoup. Oui, Jésus a autorisé, vous savez, il y a des démons qui ont dit, est-ce qu'on peut aller sur les pourceaux ? Il dit, ok, je vous autorise. Allez au pourceau là-bas. Ils sont cavalés. Ils sont arrivés au pourceau. Boum, ils se sont précipités. Vous connaissez l'histoire. Je peux. Protection et identité commune. La clé, quand on l'a, on est en train de dire, celui qui a la clé, il te dit, ok, j'ai la clé, donc je te protège. Je suis à la porte, j'ouvre ou je ferme. Je discerne. Toi, tu es qui là? Ok. Discerne que là, toi. En fait, tu t'es déguisé en chrétien. Tu t'es déguisé. Je vérifie ce qui rentre et ce qui sort. Vous savez, de comprendre qu'il y a une chaîne d'autorité, ça va nous conduire à devoir exercer la discipline, mais aussi dans l'Église. On exerce l'autorité contre les démons, mais ça prend de la responsabilité. La protection, ce n'est pas simplement pour dire « tout va bien pour toi », je vais même te protéger de toi-même, comprenez-moi. C'est une responsabilité paternelle. La motivation n'est pas de « j'ai le gouvernement, c'est moi qui dis, toi, lui ici, c'est César, genre... » Non, c'est pour le bien et pour l'édification. Et ce n'est pas parce que dans le passé, il y a eu des abus d'autorité qu'on ne va pas recevoir et exercer l'autorité que la Bible nous commande d'exercer. Donc ça va prendre de la discipline. Dans l'amour toujours. Mais je vous annonce que je, personnellement, vais assumer, et l'équipe de direction va développer une culture. Alors, d'armée. Je vais vous dire, moi j'ai un exemple ici. Hein. On a quelqu'un qui est adjudant, qui était dans l'armée, mais qui finalement a un cœur gros comme ça. J'aime ça. Il s'agit de notre ami Fred. On va voir une vidéo tout à l'heure. Il a été dans l'armée. Mais quand il est chez lui, avec ses enfants, il ne faut pas toucher à ses enfants. Hein. Il aime ses enfants, il aime sa femme. Sa maison est une maison d'amour. Mais quand on est dans le combat, on est dans le combat. Vous me suivez là? C'est pas parce que les gens ils disent « Oh, mais l'église clé devient armée. » Tu sais? Mais je dis « Amen, amen, amen. » Vous comprenez? Parce que je ne veux pas dire « Oh non, mais on n'est pas armé, on s'aime quand même bien aussi. » Non, non, non. On est armé et on assume d'être armé. Et en même temps, on est une famille. Quand c'est la famille, c'est la famille. Mais on ne va pas mettre en conflit. L'église est à la fois une famille, mais elle est à la fois une armée. Donc, quand Fred est chez lui, il est papa, il est mari, et puis je peux vous dire, c'est un bon mari, c'est un bon papa, un très bon papa. Le cœur, il est... Il n'est pas adjudant dans sa maison. Mais quand la trompette sonne et qu'il met son uniforme, mais là, il n'y a pas question de dire, oui, je suis papa quand même, je vais être gentil. Non, non, l'ennemi, là, il n'y a pas gentil, qui est gentil, gentil. Hein. T'oublies gentil, hein? Vous comprenez ce que je veux dire? Le problème, c'est qu'on veut juste, oh non, mais moi... Donc, ça présuppose que parce qu'on est une famille, qu'il ne faudrait pas être armé, donc, cajole-moi, ne me discipline pas. Moi, c'est le message que j'entends. Je dis, mais si c'est ce message-là, ici, là, il y a une chaîne de commandement. On est vraiment une armée. Mais une armée, la motivation, c'est l'amour, l'édification, la bénédiction, et que nous rentrions dans ce que Dieu nous a donné. Alors, la suite. Protection et identité commune, ouverture et échange avec le monde extérieur. Effectivement, les anciens, ceux qui avaient la clé, eh bien, se tenaient aux portes et ouvraient ou fermaient. Mais la logique, c'est d'ouvrir pour libérer et envoyer. Je vais accélérer. Merci, chérie. Alors, vas-y la suite, s'il te plaît. La signification de clé dans la Bible, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, mais pour nous, c'est réel. C'est là où Dieu s'est révélé, d'accord? Sur l'intention de cette église. Elle est fondée avec des ministères qui ont reçu une vision. La rencontre de Dieu dans l'intimité, la connaissance de Dieu par la parole et l'école, on en a parlé, la communion et la réconciliation, puis l'autorité spirituelle. Donc il s'agit, l'autorité spirituelle, dans la notion de clé, c'est le combat spirituel et le libérer les captifs. Parce qu'on pourrait vouloir se déguiser avec les armes du croyant, mener le combat, et perdre de vue que c'est pour qu'il y a des captifs. On mène un combat. On mène un combat contre l'ennemi. Mais l'ennemi, derrière les portes de séjour des morts, ceux qui sont morts ou ceux qui sont dans les ténèbres, c'est des vrais gens. Le combat que nous menons, c'est pour libérer ceux qui sont sous la domination. Derrière cette porte, il y a des vrais gens. On ne prie pas juste comme ceci. On veut que son règne vienne. Et quand son règne vient, ça vient ouvrir la porte pour aller arracher des ténèbres et de la mort ceux qui y sont. Le combat spirituel a pour but de libérer les captifs. L'onction, c'est pour libérer les captifs. La conscience, pourquoi on jeûne, on prie, pourquoi on se tient, on cherche Dieu. Ce qu'on veut vraiment qu'il nous ouvre les yeux et qu'il nous donne les stratégies pour libérer le plus grand nombre de ceux qui sont captifs. Ça change tout. Il y a des vrais gens qui doivent être libérés. Et ça prend l'autorité spirituelle. Et elle vient par la prière et l'offensive de prière dans laquelle on est. Je suis obligé d'accélérer. Prière, donc après, combat spirituel, ouvrir la porte de l'évangile. Il y a une expression, quand Paul a été envoyé, qu'il revient dans l'église d'Antioche, ils font le bilan, ils disent, ah, il a manifesté, c'est acte 14 ça, il leur a expliqué comment Dieu a ouvert la porte de la foi. L'autorité spirituelle, quand on envoie des gens, quand on est dans l'envoi et qu'on comprend que c'est un enjeu spirituel, avec une chaîne de commandement qui est claire, on envoie des personnes, on prie pour eux, on est derrière eux, et ils ont des clés pour ouvrir la porte de la foi aux nations. Là où ils vont aller, ils vont pouvoir exercer cette autorité pour ouvrir, qui va faire que plus en plus de gens, par l'implantation d'églises, par des œuvres pertinentes, et puis jusqu'aux extrémités de la terre, il va y avoir des églises qui vont s'implanter, des œuvres qui vont se faire, des ministères qui vont être libérés dans le but d'ouvrir toujours plus loin la porte de la foi. Et trois, reconnaître et libérer les ministères du royaume, c'est-à-dire tous les membres de l'église ont un ministère. C'est pourquoi nous faisons cette école clé, pour reconnaître, identifier, former, libérer des gens pour avoir vraiment des projets inspirés d'en haut et faire une différence. Donc la prière est un acte de guerre. Je vais juste citer ça, j'ai trouvé ça trop fort. C'est Paul qui dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. » Comment ? En adressant à Dieu des prières en ma faveur. La prière, c'est un combat. En fait, on ignore que Dieu a voulu que ce soit ainsi. On travaille dans la prière. On y va. Mais tu vas, tu prends tout, puis tu pries en sa faveur. Pourquoi ? Parce que dans ce combat, il va y avoir une ouverture pour aller encore plus loin. Paul, il était passionné jusqu'aux extrémités de la terre. Il a voulu même venir jusqu'en Espagne. Et pour aller en Espagne, il est passé par le sud de la France. Alléluia. Paul a marché sur nos terres, là. Vous savez comment ? Par la prière. C'est vos prières, parce que vous combattez avec moi, qui fait que le royaume de Dieu avance. Ok. Alors, je vais introduire une vidéo qui nous présente une petite surprise. On a voulu vous faire un cadeau ce matin. Mais on était en prière, là, dans ce temps. J'ai chaud. Je sais pas si... Excusez-moi, j'ai voulu tenir jusque-là pour dire la veste et tout le reste, mais là, j'ai trop chaud. On était en prière un mardi matin et Dieu nous parle que nous sommes une armée, qu'il faut se préparer. Vraiment, ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas juste une bonne idée. C'est vraiment le Saint-Esprit qui nous est conduit. Et on prie. À un moment donné, je comprends, je vois que Dieu nous dit « garde à vous ». Et j'ai dit « ah, le Seigneur est là, il passe en revue son armée et il dit « garde à vous ». Parce que quand un chef vient, dans toute chaîne de commandement, il m'a expliqué ça. On a eu un entretien très passionnant, très, très instructif. Dès qu'il y a un chef, quelqu'un de rang supérieur qui vient, tout le monde, au garde à vous. Puis il dit repos. Non, disons, tu te détends, tu fais ça. Mais c'est pas ça. Hein. En tout cas, moi, comme je n'ai pas appris là, s'il me dit repos, je dis ah. Non. Donc, repos, tu sais, genre, ils attendent, repos. Mais sinon, c'est garde à vous. Et le moment de prière qu'on avait, je voyais le Seigneur qui venait au milieu de nous et il repassait en troupe. Il repassait les troupes. Et puis, du coup, il y avait des gens qui étaient là un peu. Je voyais ça dans mon esprit. Et le Seigneur nous disait, attention, le chef est là. Garde à vous. Et il m'a rajouté une chose. Il me dit, on était en prière. Tout ça en prière. Écoutez, je vous conseille de venir au réunion de prière. C'est extraordinaire ce qu'on vit, parce que le Saint-Esprit nous conduit, c'est puissant. Et puis, il nous rajoute, il nous dit, normalement, quand il y a garde à vous, il y a aussi une autre chose qui dit, présentez les armes. Si nous sommes une armée, on va aller s'instruire. Présentez les armes. Ça veut dire que si tu fais partie de l'armée, tu vas apprendre quand le chef de l'armée est là. À avoir, alors comprenez bien, ça reste un père, ça reste notre grand frère. Mais quand on est dans l'armée, on est dans la maison, on est dans la famille, bien sûr que c'est un père. Et là, il y a de la tendresse. Il faut que l'Église apprenne que quand c'est armé. Quand la trompette sonne, c'est l'armée. Quand Dieu dit, il arrive le chef, c'est, on apprend à dire, attention là, on n'est pas dans le même registre. Tout ceci se vit, mais dans des saisons différentes. Comprendre. Et qu'est-ce qui se passe ? Présenter les armes, c'est quoi ? C'est quoi les armes ? Est-ce que tu es équipé ? Est-ce que tu es rempli de la parole de Dieu ? Est-ce que s'il y a combat, on sonne de la trompette, tu es prêt, tu jumps dans ton uniforme et on y va. Je suis prêt, les armes sont... Waouh, on va y aller. Ouf, ouf, ouf. Je suis prêt. Ou alors, finalement, tu sais, comme les vierges folles. Mais non, je n'étais pas trop préparé, je ne sais pas trop, je ne suis pas là-dedans. Je vais aller chercher. Non. C'est maintenant que ça se passe. Et l'équipe, L'armée, elle est toujours prête quand il prépare son armée. Elle est prête. Tu présentes les armes. Tu dis, oh, garde à vous. Et tu présentes les armes. Tu as une parole à propos qui va venir mettre en échec l'ennemi. C'est toujours la parole de Dieu qui met en échec l'ennemi. Quand Jésus était dans le désert, au bout de 40 jours de jeûne, comment il a triomphé de l'ennemi ? Il est écrit. Quand l'ennemi vient, que tu es éprouvé et que tu n'as pas tes armes, tu sais quoi ? Ça va être compliqué. Ça prend les armes. Alors, vidéo, s'il te plaît. J'espère qu'elle y est, c'est bon ?
Bonjour, je suis Adjan Feni. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement d'un régiment. Je vais vous présenter l'organigramme en premier lieu. Donc à la tête, à l'état-major, donc, nous avons le chef de corps. Il est composé de ses adjoints, donc le chef du bureau opération instruction et le chef du bureau mouvement logistique. Le régiment est composé de 5 compagnies de combat, dont une compagnie d'éclairage et d'appui et une compagnie de commandement et logistique. Donc en premier lieu, nous avons la première phase, nous avons l'instruction, l'entraînement, ensuite l'envoi des troupes. Donc les compagnies sont indissociables, c'est-à-dire que nous envoyons en premier lieu la compagnie d'éclairage et d'appui qui éclaire, qui va en reconnaissance, puis viennent les compagnies de combat appuyées par la compagnie de commandement logistique qui est là pour faire le soutien. Donc toutes ces compagnies sont indissociables.
On peut applaudir, s'il vous plaît. Quand on s'est vu, Fred m'a raconté que, on va le voir tout à l'heure, mais ils chantent dans l'armée. Alors ils ont les armes, tout le reste, mais ils chantent. Et que le chant dit qu'ils ont déjà, ils rappellent l'histoire, les chants rappellent l'histoire, qu'ils ont déjà triomphé. Alléluia. Vous savez, dans l'église, il y a des hymnes. La Bible dit chanter des cantiques spirituels, des hymnes. D'accord ? Ça prend un rappel de la victoire de Jésus à la croix. Chanter la victoire de Jésus à la croix, comme une armée. Équipage juste là en train de chantonner comme ça, qui prend conscience que ce que nous. C'est l'un des ministères de l'Église, c'est de dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, de proclamer, d'annoncer ce qui a déjà été fait. Jésus a déjà triomphé, tout a déjà été accompli. Mais nous devons apprendre à le faire avec une conscience profonde de l'autorité qu'il nous a donnée. Notre église est une Antioche, je vais lire ça rapidement, j'ai bientôt fini. Hein. Un modèle d'église, il y a plusieurs modèles d'église. Quand une église est dirigée par des anciens qui ne sont pas des ministères, c'est une église pastorale. Parce que la mission des anciens, c'est de prendre soin. Mais quand dans une église, il y a des ministères donnés par Dieu, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a suscité, a ouin, a appelé, pour les établir dans un gouvernement spirituel. Il y a une chaîne d'autorité dans l'Église, il y a des ministères, il y a des anciens, et il y a des diacres. Ça, c'est les termes bibliques. Nous les avons quand même un peu toilettés. Hein. On parle de responsables d'espace et des responsables de secteur dans notre vie d'Église. Mais il y a des ministères, et les ministères, on garde ce nom-là. L'année dernière, on a ordonné Toan et Nirina dans notre Église. On les a reconnus comme des ministères, et pas que nous, mais notre réseau d'église. Là, ça prend sens. C'est pas, on peut pas s'auto-proclamer. Dans la Bible, il n'y a pas « je m'auto-proclame ceci ». Ça ne marche pas. D'accord ? Donc, il y avait, à Antioche, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. C'est des ministères, d'accord ? Donnés par Dieu. Barnabas, Siméon, il y a toute une liste. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Dans la vocation de notre Église, c'est d'avoir des ministères qui s'associent, plusieurs ministères, et je vous annonce, il va y en arriver de plus en plus, qui vont rejoindre une chaîne de gouvernement ici, des ministères. Et la priorité de ces ministères, c'est de prier et de jeûner.
Donc vous voyez ce que nous sommes en train de faire, là où nous conduisons l'église, c'est d'apprendre à jeûner le jeûne de Daniel une fois par an, mais aussi à rentrer dans la pratique. Un ministère qui veut faire une différence, qui veut prendre les piquets et les amener plus loin, un pionnier, un missionnaire envoyé, ça prend du jeûne. Et on va découvrir dans cette série la puissance cachée du jeûne. C'est pour déverrouiller. Il y a des victoires qui ne passent que par le jeûne. Donc on va apprendre à faire le jeûne de Daniel, mais d'autres jeûnes. Il y a des jeûnes d'Esther, par exemple, sans eau, sans nourriture pendant 3 jours. Ça, c'est quand il y a des enjeux de vie et de mort. On va apprendre cela. Et quand il y a un enjeu de vie et de mort comme ça, le jeûne s'accompagne de prières, bien évidemment, et ça fait une différence. Ils jeûnaient et ils servaient Dieu, ils adoraient Dieu. Dans ce qu'on met en place dans les différents espaces de prière dans notre église, ce n'est pas que de prier comme ça, non. C'est d'écouter le Seigneur, d'adorer, de combattre, de se reposer. Vous voyez, c'est très ouvert. On se laisse conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'on veut servir Dieu. On veut servir la personne de Dieu. Imaginez, nous sommes des sacrificateurs, la Bible dit. Ceux qui servent Dieu, pas simplement dans la prière pour qu'il exauce nos besoins. C'est une autre culture qui se met en place. Des ministères qui jeûnent et qui prient et qui servent Dieu. C'est-à-dire, ils l'aiment, ils écoutent, ils sont avec lui. Et puis quand il combat, ils le suivent. Mais quand il est au repos, ils le suivent. Ils servaient le Seigneur. Et après, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part. Écoutez bien, le Saint-Esprit va de plus en plus dire, mettez-moi à part. Ça veut dire quoi ? Il y a des personnes parmi vous qui doivent être envoyées. Une église missionnaire, apostolique, une église qui a vraiment un mandat, comme nous, d'avoir une clé et d'ouvrir la porte de la foi jusqu'aux nations, ça prend des gens qui vont quitter ici, mais envoyer, pas juste dire, ok, tu as une mutation, on bénit, tu es passé parmi nous. On le fait très souvent, ça. Ça, ce n'est pas un envoi, c'est une bénédiction. Un envoi, c'est quelqu'un qu'on reconnaît parmi nous. Un fils, une fille. Quelqu'un qui a capté la vision, l'ADN de l'Église et qui dit « Je m'en vais, mais je reviens. » C'est ma base ici, je m'en vais. Et c'est ce que faisait Paul. Il revenait et il racontait comment Dieu avait ouvert la porte. Nous sommes clés et on veut libérer des ministères. On va les libérer, certainement dans un rythme qui va nous étonner, mais on va le faire. Mais avant de le faire, il faut être sûr qu'ils soient de la maison. Sinon, on va avoir des complications quand ils vont être au loin. Il faut être sûr qu'ils aient compris la chaîne de commandement. On ne peut pas envoyer des gens... Et du coup, ils deviennent francs-tireurs là où ils sont. Là. Il faut vraiment avoir intégré les principes et comprendre que l'Église, c'est une chaîne de commandements. Pas juste pour obéir de manière comme ceci, sans intelligence. On ne met pas notre intelligence de côté. Mais les principes spirituels, ils sont. On peut questionner, on peut parler, mais il y a un acquis à l'intérieur. Enfin, 3 choses qui caractérisent une église comme la nôtre, c'est plusieurs ministères, je l'ai dit, une école de formation missionnaire. Et je voudrais dire, je veux encourager le plus grand nombre à faire l'école clé. Le but, c'est quoi ? C'est de former des missionnaires. On veut envoyer des missionnaires. On veut envoyer des gens qui ont compris ce pourquoi Dieu les a fait et qui vont, parce qu'ils ont compris la chaîne de commandement, être libérés pleinement, mais en affirmant leur attachement à la base et au gouvernement que Dieu a établi dans l'église. Alléluia. Il faut que j'enchaîne. Donc j'enchaîne. Nous voulons vous présenter le gouvernement de l'Église ce matin. Et Fred m'a aussi dit une chose qui m'a béni. Il dit, quand un nouveau colonel arrive, de lieutenant, capitaine, eh bien, l'ensemble de la chaîne de commandement est présenté aux soldats qui sont là dans ce régiment. Et au moment où ils sont présentés, les personnes, les soldats se lèvent et reconnaissent l'autorité. Et ça se fait en présence d'un général qui vient assister à la passation entre un colonel et un autre colonel, un lieutenant avec un autre lieutenant, un capitaine avec notre capitaine. Et ceux qui sont ici disent, nous reconnaissons la nouvelle chaîne d'autorité et nous nous engageons à nous soumettre, à être obéissants et à nous soumettre comme Hébreux 13 nous dit. C'est pas beau ça ? C'est sûr que dans la culture française, on se dit, waouh, on est où là ? On est où là ? Et pourtant, nous sommes une armée. Sans la reconnaissance de la chaîne d'autorité, on n'ira nulle part. Quand la pression de l'ennemi va venir, les tas de choses vont ressortir qui vont nous amener à un échec. Pourquoi il n'y aura pas une unité par la reconnaissance de l'autorité que Dieu a établie dans l'Église ? Est-ce que vous me suivez là ? Donc du coup, je vais vous présenter l'équipe de direction. Et de dire que l'équipe de direction est composée de ministères, comme je vous disais tout à l'heure. Toute la chaîne d'autorité est là. Il y a des anciens et il y a des diacres. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ces termes-là sont spécifiques dans la Bible. Ils ont une fonction spécifique de gouvernement et puis de diriger l'Église. Leur rôle, c'est de définir la vision par année, parce que la vision de l'Église, elle est là, mais à chaque fois, le Saint-Esprit va parler. Alors, c'était vraiment bénissant, parce que Fred me disait que chaque année, le général adressait à ses colonels la vision de l'année. Et le colonel, qui saisissait ceci, partageait ça à son équipe, avec une dimension d'entraînement. Il faut entraîner les équipes à cause de la vision qui a été donnée. Il faut les équiper pour, à un moment donné aussi, être appelés à passer à l'action. Et c'est exactement ce qui prend place au milieu de nous. Il y a une vision. Et cette vision-là, elle est définie, elle est reçue, on en fait le tour, on le met en stratégie, on recrute et forme des leaders, on élabore le programme, on établit le budget, on gère les ressources humaines. Ça, ce sont les missions de l'équipe de direction. Et je voudrais les appeler, tous les membres de l'équipe de direction, à me rejoindre ici maintenant sur les strates, s'il vous plaît. Et on va pratiquer ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que je cherchais une symbolique. C'est une nouvelle équipe établie depuis, grosso modo, septembre. Mais ils sont là depuis longtemps dans l'Église. Et puis, la gouvernance s'établit clairement. Elle s'assume. Et puis, ce que je souhaiterais ce matin, c'est que les soldats se lèvent. Le général est là. C'est pas moi le général. Le chef de l'armée est là. Le chef de l'armée est là. Le chef de l'armée est là. Et vous savez, comme pour Josué, il arrive maintenant. Il veut passer en revue l'armée. Il dit, mais ok, on y va. Il y a une gouvernance ici. L'idée, c'est que nous puissions les reconnaître. Et je suggérais tout à l'heure que si vous êtes dans un groupe quelconque, une équipe, un espace, un secteur quelconque, allez trouver votre responsable et reconnaissez l'autorité que Dieu lui a donnée. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont amené leur Bible ici? Le smartphone, ça fait le job aussi. Hein. Je vous proposais de lever, vous savez, présenter les armes. Comment on les présente d'ailleurs, Fred?
En fait, on est tous debout et il y a juste un commandement du chef qui dit présenter armes. La nouvelle équipe est en place, en fait, dans la symbolique de l'armée, c'est quand il y a le colonel. Donc en fait, on présente les armes, c'est-à-dire qu'on montre notre arme, qui est la parole de Dieu pour nous.
Tu veux bien le faire ?
Il y a un commandement en fait. Donc c'est tout le monde au garde à vous, donc vous êtes déjà au garde à vous, donc c'est maintenant présenter arme. Donc j'invite tout le monde à lever sa Bible. Voilà.
Gardez-la. Gardez-la levée. C'est des symboliques, mais il y a des symboliques bibliques qui sont fortes, comme l'imposition des mains. C'est une symbolique, mais elle est forte quand il y a la foi derrière. Je sens l'onction sur moi là. Père, nous nous présentons devant toi. Nous prenons conscience de l'enjeu spirituel qu'il y a ici dans cette offensive. Nous voulons reconnaître les personnes que tu as établies et les recevoir. Je prie au nom de Jésus, alors que nous présentons notre arme, qu'elle soit utilisée contre l'ennemi pour amener une grande victoire. Qu'elle soit utilisée pour se protéger les uns les autres, et dans une logique de déférence envers les responsables que tu as établis dans l'Église. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut les acclamer, s'il vous plaît? Merci Père. Prenez place. Je sais que ce que nous sommes en train de faire est contre-culture.
Je le sais, mais je l'assume parce que Dieu nous a établis. Et si on commence ici à tergiverser entre nous en mode oh, et nana, on s'en va quelque part. Et c'est clair, on assume la direction. Je vais vous présenter le conseil d'église qui fait partie de la gouvernance de l'église. Le conseil d'église est composé de ministères parce que forcément l'équipe de direction fait partie du conseil d'église. Du coup, il y a les ministères des anciens des diacres et les membres du conseil d'église, soit anciens, soit diacres. L'idée, c'est que la Bible nous dit même de les éprouver. Donc, il y a des périodes comme ça, probatoires, où on éprouve un ancien et on éprouve un diacre. Et puis à un moment donné, ils font la demande express pour qu'officiellement ils le soient, mais le conseil d'église est composé de personnes qui sont soit déjà établis ministères, déjà établis anciens, déjà établis diacres, ou en formation ou en probation. Donc on peut rester en probation pendant un moment, mais on va établir au milieu de nous le principe d'accueillir des personnes qui sont établies. Leur rôle, c'est de porter l'ensemble de l'Église, donc dans la prière, etc., leur charge, de collaborer à la mise en œuvre de la vision, d'aider à la mise en place des décisions prises donc par l'équipe de direction et des remontées de terrain. Et puis c'est un lieu de formation et de discernement des ministères anciens et diacres. On a des documents qu'on va rendre de plus en plus publics parce que c'est important qu'on comprenne comment devenir ancien. Et comment, est-ce que c'est juste à l'appréciation des pasteurs, des membres de l'équipe de direction, comment que ça marche? On va le rendre public pour que vous sachiez comment que ça marche. Il n'y a rien de caché, mais on veut le rendre accessible. Et puis du coup, je vais leur demander, ceux qui sont membres du conseil d'église, de s'approcher ici avec moi sur l'estrade et on va refaire, non, pas vous, mais les membres du conseil d'église, donc vous venez, si vous pouvez, le plus rapidement possible, maintenant, donc, hein, sur l'estrade. Et on va refaire la même chose. On va refaire la même chose que tout à l'heure. Et je vais demander à un membre de l'équipe de direction de prier pour qu'on reconnaisse l'autorité déléguée au milieu de nous. Donc, soldats, garde à vous. Soldats, présentez armes.
Père, nous te remercions pour ces hommes et ces femmes que tu as appelés et à qui tu as confié cette charge de prendre soin de ton corps et de la conduire dans la bataille, de la conduire avec efficacité, avec ton onction. Et Seigneur, ce matin, nous reconnaissons qui ils sont parmi nous. Nous nous plaçons sous leur autorité parce que nous discernons ton autorité derrière. Nous te prions, Seigneur, de les bénir dans leur charge et de leur donner d'exceller, de leur donner d'être excellents guerriers et de pouvoir nous conduire dans des victoires dans les mois et les années à venir. Seigneur, merci parce que c'est toi qui es là dans ce conseil et nous te remercions parce que tu règnes au sein de ce conseil. Au nom de Jésus. Amen.